Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est aujourd'hui, 25 juin, que la Monnaie de Paris lance 27 pièces de 10 euros dédiées aux régions françaises, des pièces frappées à l'effigie de 27 personnalités emblématiques de nos régions et que nous allons découvrir dans cette émission spéciale d'au cœur de l'histoire, présentée forcément par Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette émission spéciale va nous permettre de rendre hommage aux 27 personnalités choisies, de Casanova à Pasteur, de Madame de Pompadour à Édith Piaf, mais aussi de rendre hommage à la Monnaie de Paris dont j'avais fort envie de vous parler, et ce depuis longtemps.
Et vous vouliez commencer par faire un point sur le thème de la monnaie.
Ben oui, la monnaie comme phénomène historique, central et même comme acteur de l'histoire entre nous, je crois volontiers que l'on pourrait écrire une histoire du monde à partir simplement de la saga des monnaies. Je ne désespère pas de vous surprendre un petit peu cet après-midi avec tous ces sujets.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Quand la monnaie n'existait pas, ah oui, vous voyez qu'aujourd'hui je remonte à des temps très anciens, l'homme avait recours pour ses échanges, pour les échanges nécessaires à la vie. Il avait recours, pour les échanges, mais aussi pour son confort, qui certes à l'époque était très relatif. On avait donc recours au troc, du genre trois pagnes contre un coutelas d'os, par exemple. D'ailleurs, pas besoin d'aller chercher si loin dans le temps, le troc ressurgit dans le monde moderne à chaque fois que la monnaie fait défaut. Vous n'avez qu'à songer à nos proches ancêtres sous la Révolution, ou plus près de nous encore, à tous les trafics et douteux échanges qui ont pu avoir cours sous l'Occupation. Tes points de pommes de terre contre mon ticket de beurre, etc. Revenons au lent cheminement vers la monnaie. Ce grand pédagogue de la monnaie qu'a été René Sédillot expliquait qu'il a fallu de nombreux siècles pour que nos lointains ancêtres comprennent qu'au lieu de se torturer les méninges pour établir des échanges en nature à peu près acceptables, il pouvait être bien pratique de recourir à une unité de valeur universelle, par exemple le coquillage. Tant de coquillages contre un pagne, tant de coquillages contre un coutelas en os, etc. Ça va plus vite et surtout c'est plus équitable. Cette unité coquillage, par exemple, permet non seulement de faciliter les échanges et de mesurer la valeur des choses, mais elle permet aussi, et dans les civilisations sédentaires de l'âge néolithique, ça n'a pas été négligeable loin de là, elle permet de mettre des coquillages de côté, autrement dit d'épargner. Eh bien tout simplement, le coquillage universel en question, ça s'appelle une monnaie. Les premières monnaies que l'on connaisse, il faut aller les chercher sur le pourtour de l'océan Indien. On appelle ça des koris. Et précisément, il s'agit d'un coquillage de type porcelaine. Vous savez, c'est un coquillage blanc, assez beau, avec des reflets ocre. Le règne du koris s'est peu à peu répandu, traversant l'Afrique d'un côté, poussant de l'autre jusqu'à la Chine et à l'Océanie. C'est donc la première monnaie connue. On l'utilisait encore au Sénégal au début du siècle dernier. Seulement voilà. Le problème avec ce genre de monnaie d'origine naturelle, il en a existé aussi d'origine végétale ou animale, c'est qu'il suffit de connaître les bonnes plages, les bons endroits de collecte pour ramasser des coris et donc pour s'enrichir sans raison. Hausse de la quantité de coquillages disponibles, eh bien automatiquement hausse des prix, on appellerait ça à notre époque l'inflation. Bientôt, au lieu de payer le pagne et le coutelas à l'aide d'un ou deux colliers de coris, eh bien il a fallu venir avec une pleine besace et puis avec un chaudron. C'est pas très pratique non plus. Une petite parenthèse d'ailleurs, dans le monde indo-européen, c'est longtemps le bœuf qui a servi d'unité d'échange. Quand je parlais d'unité peu pratique, vous avouerez que le bœuf, on a connu mieux. D'abord, c'est très lourd, un bœuf.
Ah oui,
ça se déplace pas toujours. Ça dépend s'il a envie d'avancer ou pas. Et puis, ça doit être nourri, abreuvé. C'est donc une monnaie qui coûte. Et puis, c'est périssable. Une fois abattu, c'est un inconvénient monétaire majeur, le caractère périssable. Il n'empêche, du mot latin pecus, qui donc veut dire bœuf, découle des mots comme pécule ou pécuniaire. Et en Inde, bœuf se dit roupia. Eh bien, c'est l'origine du mot roupie. Bon, passons. Il fallait donc trouver une monnaie sûre, légère, efficace, pérenne, d'où le recours aux métaux rares, voire aux métaux précieux, le cuivre, le bronze, l'argent, l'or. Alors vous allez me dire, l'or c'est finalement comme les cauris, ça se ramasse dans la nature. Oui, c'est vrai, mais avouez quand même que c'est moins courant, c'est plus facile à localiser, pour peu qu'une communauté humaine se soit organisée en cité et même en état, elle peut envisager de contrôler l'accès des gisements de métaux précieux. Ce qui ne met pas les échanges à l'abri de l'inflation, puisqu'après tout, quand Alexandre le Grand rapporte de Perse des butins d'or considérables, eh bien on va voir les prix s'envoler sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est inévitable, ça, c'est mathématique. On retrouvera le même phénomène en Espagne et puis dans toute l'Europe lorsque les conquistadors rapporteront des Amériques l'or et l'argent des Aztèques et des Incas.
Un extrait sur Europe 1 de L'or et l'argent, composé par Franz Lehár.
Franck. 19e siècle, ça faisait rêver évidemment encore à cette époque. L'avantage tout de même avec les métaux, c'est qu'on peut les scinder en petits morceaux de poids identiques, donc de valeur absolument égale. De petits morceaux auxquels on donne la forme qu'on veut, des barres, des plaques, des lingots ou des pièces. Ça, c'est la dernière forme en date, inventée en Lydie, sur les rives orientales de la mer Égée, au 6e siècle avant notre ère, de petits disques de métal avec des empreintes des deux côtés, à l'avers et au revers, pour employer nos termes modernes. Pas tout à fait par hasard, la Lydie, au passage. Hein, c'est le pays du roi Midas, vous savez, dont la légende dit qu'il transformait en or tout ce qu'il touchait. C'est le pays où coule le fleuve Pactole. Mais oui, c'est le futur pays de Crésus. Tiens. Or, peu à peu, pour multiplier le nombre de pièces afin de suivre la croissance des échanges, on va se mettre à fabriquer des monnaies en alliages divers. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus de cuivre et de moins en moins d'or, et cependant, on garde la valeur en or. À partir de ce moment-là, la monnaie devient, on appelle ça une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que sa valeur se met à dépendre de la confiance, de la foi qu'on a en elle, du crédit qu'on lui porte. Les choses, vous voyez, commencent à se complexifier. Mais elles vont se complexifier encore bien davantage avec la monnaie de papier. Ce sont les Chinois qui disposaient du papier, de l'imprimerie, de l'encre, de Chine évidemment. Ce sont les Chinois qui, les premiers, vont utiliser une monnaie de papier. Attention, c'est une monnaie qui à l'époque est entièrement couverte par des réserves de métaux précieux. Elle est directement convertible. La monnaie fiduciaire, pleinement fiduciaire, elle ne viendra que plusieurs siècles plus tard. Et à partir du moment où elle existe et où elle fonctionne dans un empire, il est vrai, extrêmement bien réglé comme peut l'être l'empire chinois, eh bien elle va s'exporter cette pratique. On la voit passer à la Perse et puis de la Perse évidemment par les routes commerciales jusqu'à l'Occident, Venise, Amsterdam, Stockholm. En Angleterre, on voit des monnaies de papier. En France, on est très rétif. Hein, on n'est pas du tout favorable à la monnaie de papier. La première qui existe sur notre territoire, c'est là-bas en Amérique, c'est en ce qu'on appelle la Nouvelle France. À l'époque où le gouverneur Jacques de Meule, on est là au XVIIe siècle, n'a pas les espèces monétaires, les espèces métalliques suffisantes pour payer tous ses agents. Et donc il se met à éditer lui-même, sur des cartes à jouer d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de papier suffisamment, il se met à éditer des billets de banque en cartes à jouer, si l'on peut dire. En France, vous savez qu'il faudra attendre la Régence et la triste expérience de John Lass, ça s'écrit John Law, cet aventurier plus ou moins banquier écossais, qui crée son système, un système qui va aboutir à un très grand désastre, ce qui fait que les Français déjà réticents vont devenir carrément très méfiants envers une monnaie de papier avec laquelle la Révolution ne les réconciliera pas. On sait ce qu'il est advenu des assignats dans les pires périodes de la terreur et du directoire, un assignat qui peu à peu se met à ne plus rien valoir, donc on va finir par payer son pain avec des brouettes de papier-monnaie, une inflation considérable, une dévaluation non moins considérable. Décidément, il semblerait que les billets de banque ne soient pas faits pour les Français. Entre parenthèses, on peut aussi dévaluer les monnaies de métal. Hein. Il ne faut pas croire que ce soit l'apanage des monnaies de papier. Dites-vous qu'en France, à l'origine, la livre tournoie, c'est-à-dire la livre de Tours, qui peu à peu avait gagné de l'importance par rapport à la livre de Paris. Cette livre tournois représentait une livre d'argent, c'est-à-dire, si on remonte au haut Moyen-Âge, 450 grammes d'argent. Peu à peu, eh bien, les régimes passent, les règnes se succèdent, avec toutes les nécessités d'argent que supposent les guerres, etc. Et peu à peu, eh bien, les 450 grammes d'argent, en 1789, ne sont plus que 4,5 grammes. 4,50 grammes, c'est-à-dire qu'on a peu à peu dévalué la monnaie. Elle a été, sa valeur intrinsèque a été divisée par 100. Sous la Révolution, on se dote d'une nouvelle monnaie, le franc. Alors pour être honnête, on parlait depuis très longtemps du franc, depuis le Moyen-Âge. Il était l'égal du mot livre du reste, mais la Révolution symboliquement supprime le mot livre et ne garde que le mot franc pour désigner une monnaie qui prend exactement le relais de la livre tournois. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on n'a plus d'assignat pour venir troubler les choses, le franc se met à représenter 4,5 grammes d'argent, ce qui correspond à 290 mg d'or. Ça, tous les numismates et tous les spécialistes de ces questions connaissent ce chiffre par cœur, bien entendu. Au 19e siècle, dites-vous que presque tous les pays ont des problèmes avec leur monnaie qui chancelle. C'est le cas de l'Autriche, de l'Italie, de la Russie, de l'Espagne. Il y a deux monnaies qui se maintiennent et qui se maintiennent vraiment. C'est la livre sterling et c'est le franc. Le franc refixé par Bonaparte, c'est ce franc germinal qui durera jusqu'en 1914 avec sa convertibilité parfaite à 290 mg d'or. Et puis après, il y aura les dévaluations, celle de 1928 qui fait descendre le franc à 58,95 mg. Et puis toute une cascade de dévaluations, ce qui fait qu'en 1958, le franc ne vaut plus qu'un gramme 80 de 1 milligramme, pardon, 80 d'or. Il faudra le franc lourd, vous savez, en 1958-59 pour que l'on revienne à 180 milligrammes, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, un franc lourd vaudra 100 francs légers, si je puis dire. Depuis, évidemment, le franc a disparu, nous sommes passés à l'euro. Je crois que nos auditeurs sont bien placés pour savoir que l'euro n'est pas la panacée et que c'est une monnaie qui à son tour pose de graves problèmes. Mais vous aurez compris à travers cet aperçu, à travers ce survol de l'histoire des monnaies à travers les âges, que qui dit monnaie dit forcément problème. Nous allons essayer de venir dans un instant avec mes invités qui sont tous de grands experts. Nous allons voir ce qu'il en est de plus près de ces monnaies, de leur valeur réelle, de leur valeur fiduciaire et puis aussi de leur valeur symbolique.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 avec plusieurs représentants de la monnaie de Paris, dont Christophe Beau, qui en est le président directeur général.
Oui, bonjour à vous quatre, puisque nous avons quatre messieurs
très
qui
plateau.
Représentent différents aspects de ce métier qui consiste non seulement à faire, à fabriquer, mais aussi à conserver et puis à... j'ai envie de dire à faire connaître la monnaie. Alors Christophe Beau, j'ai été très rapide dans mon survol historique sur l'histoire des monnaies. Ce qu'il faut que nous disions peut-être très clairement, c'est que le droit de frapper monnaie est depuis, au moins depuis le haut Moyen-Âge, on pourrait même remonter à l'Antiquité, mais on va s'en tenir au Moyen-Âge si vous voulez bien, c'est un droit essentiel, c'est le cœur même du pouvoir régalien.
En effet, chaque grand seigneur au Moyen-Âge avait son droit de battre monnaie.
Ce qui veut dire qu'il y avait des monnaies, autant de monnaies que de seigneurs.
Il y avait effectivement des monnaies réparties sur le territoire, à la fois pour cette raison-là, à cause du droit qui était attaché à la suzeraineté, mais aussi pour une raison pratico-pratique, si j'ose dire, c'est que les monnaies métalliques sont pondéreuses, elles sont difficiles à transporter. Au Moyen-Âge, il y a du brigandage dans les forêts, et il vaut mieux avoir le lieu de production
près
du lieu d'échange. Et donc, on avait un réseau d'ateliers monétaires répartis sur tout le territoire, dans les grandes villes bien évidemment, mais aussi dans des petites villes. Par exemple, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait un hôtel des monnaies à Figeac.
Ah oui.
Donc même une ville de la taille de Figeac avait son propre hôtel des monnaies.
Qui était, il faut dire, au Moyen-Âge, une ville relativement
une ville
plus importante
d'échange et d'aujourd'hui
de
carrefour.
Avec des
et
foires.
C'est d'ailleurs ce qui explique notre nom, monnaie de Paris, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la fusion s'est faite et le droit de frapper a été réunifié dans les mains de l'État.
Enfin, l'État seul.
Du pouvoir royal et ensuite aujourd'hui de la République, bien entendu. Il n'y a plus de subdivision territoriale, heureusement. Mais c'est donc la monnaie monnaie de Paris qui a rassemblé ce droit de fabrication et qui s'appelle donc monnaie de Paris et non pas France Monnaie ou monnaie de France comme on aurait pu l'imaginer.
C'est beaucoup plus joli.
Alors, nous allons venir à la monnaie de Paris, à son statut, à son rôle dans un instant. Avant cela, j'aimerais que, pour clore le chapitre de notre longue évolution vers les monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui, monnaie d'ailleurs aujourd'hui totalement dématérialisée, je n'ai même pas eu le temps d'en parler, là, mais on y viendra tout à l'heure, puisque l'essentiel, l'immense majorité aujourd'hui des transactions s'effectue d'une façon tout à fait virtuelle, bien entendu. On n'a plus la bourse avec les petites piécettes, évidemment. Pour en revenir au droit de frapper monnaie, est-ce que ça veut dire que chaque monnaie avait son titrage spécifique ou est-ce qu'au moins il y avait une harmonisation entre elles ?
Non, alors au départ, effectivement, il n'y a pas du tout d'harmonisation. Mais comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, petit à petit, la monnaie a été rognée. Sa valeur métallique a été réduite.
C'est-à-dire qu'on enlève du métal précieux dans chaque pièce.
On enlève du métal précieux et petit à petit, elle devient fiduciaire avec donc cette valeur monétaire, cette valeur d'échange qui se détache progressivement de la valeur métallique. Et la différence entre les deux porte un nom, elle s'appelle le droit de seigneuriage. Et on revient effectivement à l'idée d'origine qui est le droit de battre monnaie. Les seigneurs ayant le droit de battre monnaie, ça rogeait en quelque sorte le droit de rogner les pièces et empochait finalement la différence. Et c'est bien pour ça que petit à petit, c'est devenu une activité réservée au seul pouvoir central du roi et aujourd'hui de la République.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la planche à billets. Alors, parmi toutes ces monnaies, il y en a une à laquelle je sais les Français très attachés. Il y a quelques mois, à l'occasion de la de l'arrêt pur et simple du franc, hein, de son retrait définitif de la circulation, devrais-je dire. Nous avions fait chez l'ami Yves Calvi une émission spéciale sur la fin du franc et on s'est rendu compte de l'attachement des Français à cette ancienne monnaie, à cet ancien franc dont l'origine remonte, elle, au Moyen-Âge. Il faut revenir au règne de Jean le Bon, je crois. Jean-Luc Denier, vous êtes le conservateur du musée de la monnaie de Paris.
C'est exact. C'est une monnaie qui a été créée en 1360 par décision royale et qui représentait...
Il s'agissait de payer la rançon du roi Jean qui avait été fait prisonnier à Poitiers, hein, c'est ça ?
Il s'agissait de manifester la pleine liberté du souverain, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais après avoir été capturé par les Anglais... À l'occasion de son retour en France, il a créé une monnaie en or que l'on appelle le franc à cheval, qui est la représentation du souverain.
Parce que c'est un cavalier simplement.
Qui est un cavalier, il se considérait comme le premier des chevaliers de France. Mmh. Et donc c'est l'expression pleine et entière de sa totale liberté de souverain.
On verra ensuite ce franc réapparaître, mais alors beaucoup plus tard, sous le règne d'Henri III, et avec une simple convertibilité en argent, c'est ça ? C'est une pièce d'argent ?
C'est une pièce qui est devenue en argent, qui vaut toujours une livre. Mm-hmm. Et donc, on a manifestement dans l'esprit des gens une synonymie entre
la livre et le franc.
Ah oui. Et
dans certaines pièces de Molière, par exemple, on voit M. Jourdain compter en francs, par exemple, et non pas en livres.
Tout à fait. Et donc, c'est une monnaie qui étant trop lourde et répondant difficilement aux besoins de l'économie de l'époque, a rapidement disparu et n'a existé pendant quelques décennies que sous la forme de demi-francs et de francs plus adaptés aux besoins de l'économie réelle.
Et puis c'est donc la Révolution, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui rétablit le franc. Un franc que Bonaparte rétablit dans sa pleine valeur à 290 mg d'or. Donc, en argent, ça représentait, ça représentait 440 et quelques grammes d'argent, c'est ça ?
Oui, tout à fait, puisque c'était à peu près la valeur de la livre.
Et ensuite, eh bien, ce franc, il se dévalue jusqu'à la grande réforme donc, du franc lourd, hein, le franc de Jacques Rueff et de M. Pinet. On est là en 1959-60, lorsque c'est le 1er janvier 60 que le franc est lancé. Alors là, c'est le nouveau franc qui vaut 100 anciens francs.
Oui. Et pour inspirer confiance à l'occasion de ce qui est malgré tout une dévaluation, on allie une réforme lancée par le général de Gaulle qui est le sauveur de la France avec de très bons économistes et la reprise du dernier type de la monnaie franc en argent de la fin de la Troisième République, les années 1898 à 1914, on reprend l'époque. Le motif de la semeuse. Créée par Oscar Rotti.
Qui est devenu maintenant tellement emblématique, qui a été bien sûr décliné par toutes sortes d'artistes. Nous allons venir à cette dimension artistique, à cette dimension esthétique de la monnaie dans un instant. Il faut savoir quand même qu'en 1971, en août 71, les Américains, le président Nixon, décide de la suppression, enfin l'arrêt de la convertibilité du dollar en or. Donc là, on entre dans l'ère fiduciaire pure, si je puis dire. Puis la dernière grande réforme, évidemment, Monsieur Beau, c'est l'euro.
Oui, absolument. L'euro introduit en 2002. Et ce que je trouve tout à fait frappant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque grande étape de l'histoire de notre pays correspond son pendant monétaire, au fond. Et c'est ce qui fait que la monnaie est indissolublement liée aux grandes étapes de l'histoire, aux grands soubresauts parfois de l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'elle est si chère au cœur des Français parce qu'elle touche leur mémoire collective très profonde.
Tous les euros qui sont frappés en pièces sortent de chez vous ?
Absolument. Nous fabriquons les euros de la France, de 1 centime jusqu'à 2 euros, donc pour la partie pièces métalliques, sachant que les billets, eux, sont imprimés par la Banque de France. Mais nous fabriquons aussi des euros pour d'autres pays.
Et puis vous fabriquez des pièces de 10 euros qui sont mises en circulation aujourd'hui. 27 pièces à l'effigie de 27 personnalités emblématiques de nos régions. Nous y venons juste après ceci.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Dès aujourd'hui, 25 juin, la Monnaie de Paris lance la dernière collection des euros des régions dédiée cette année aux grands personnages français. L'occasion pour nous sur Europe 1, bien entendu, d'y consacrer une émission spéciale, Franck.
Alors Michel Lassé, vous êtes le directeur du site de production de la Monnaie de Paris. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les méthodes employées pour frapper monnaie sont les mêmes que celles d'autrefois ?
Non, les méthodes ont considérablement évolué, ne serait-ce d'ailleurs qu'au cours des dernières années. Par exemple, si on prend l'exemple de la frappe, les frappes des monnaies, il y a encore une trentaine d'années, s'effectuaient sur des presses qui avaient une cadence d'environ 200-250 coups minutes. Aujourd'hui, les presses modernes atteignent jusqu'à 800 coups minutes. Donc on a une idée de l'évolution des techniques en l'espace d'une trentaine d'années.
800 coups minutes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout voir les pièces. Elles passent à une vitesse phénoménale.
On les contrôle par prélèvement.
Oui. Ah, c'est ça, uniquement.
Ça va très vite.
Et vous en fabriquez encore régulièrement. Il faut remettre de la nouvelle monnaie en circulation. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on renouvelle les pièces ?
On renouvelle les pièces, d'abord parce que certaines pièces s'usent. Et puis surtout, certaines pièces également disparaissent, comme on fabrique essentiellement des pièces de 1, 2, 5 centimes, 10 centimes. Et puis on fait aussi, tous les ans...
C'est celle qui s'use le plus.
C'est celle qui s'use le plus, oui. Et puis on fabrique également, tous les ans, des pièces de 2 euros commémoratives. Et on a une pièce qui va sortir ces jours-ci, qui est consacrée à l'abbé Pierre. Donc tous les ans, on a un programme de 2 euros de ce type-là.
Tout un symbole. J'espère qu'elles prendront la bonne direction, ces pièces-là. Alors Christophe Beau, vous êtes président directeur général de la Monnaie de Paris. Alors déjà, un titre qui est le titre d'un président de société privée.
Oui, si on veut. Effectivement, l'entreprise Monnaie de Paris est ce qu'on appelle un établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire
un EPIC,
une entreprise publique rattachée à 100% à l'État. Notre tutelle, c'est comme il se doit évidemment le ministère de l'économie et des finances. Et nous avons un conseil d'administration et deux sites principaux, l'un à Paris que les Parisiens connaissent bien en face du Louvre et l'autre à Pessac en Gironde où se fabriquent les pièces courantes. Michel Lassé vient de mentionner les presses à 800 coups minutes. Elles sont effectivement plutôt à Pessac. Et à Paris, on est plutôt sur la production des produits d'art, les pièces en or et en argent.
Alors, peut-être on peut préciser ça, parce que je sais qu'un certain nombre de nos auditeurs en sont bien conscients. Vous ne fabriquez pas seulement des pièces de monnaie à la Monnaie de Paris. Vous fabriquez toutes sortes de très belles médailles, fabriquez des médailles de décoration également, les médailles qu'on peut porter, la Légion d'honneur et autres. Et puis vous fabriquez des objets d'art également.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la production des pièces courantes françaises représente un tiers de notre activité. C'est évidemment le cœur historique de notre métier. Mais les deux tiers restants sont formés d'un ensemble de produits commémoratifs ou autres qui ont tous pour point commun de dériver de la technique de frappe. Par exemple, ce qu'on sait peu, c'est qu'une croix de Légion d'honneur est en fait frappée. À l'origine, elle est estampée pour avoir la découpe de la croix. Et donc, c'est exactement la même technique.
Elle est gravée, émaillée,
montée, etc. Par exemple, la médaille du baccalauréat que nous éditons en cette période du bac est aussi dérivée de la technique de frappe monétaire. Donc, nous avons un ensemble de produits produit, souvent lié à la commémoration ou aux événements de la vie personnelle.
Qu'est-ce que c'est que la médaille du baccalauréat? Alors, c'est une médaille qu'on offre aux titulaires, aux bacheliers.
Ça, il y a à peu près 600 000 bacheliers par an.
Mais oui.
Et nous avons la possibilité d'acheter pour ces bacheliers une médaille en argent ou en plaqué or qu'on peut trouver à la Monnaie de Paris. Vous avez certains proviseurs aussi qui en achètent pour les offrir à leurs lycéens et pour faire des cérémonies de remise de diplôme qui sont tout à fait importantes pour redonner à ce diplôme sa valeur symbolique et pour montrer aux lycéens qu'ils ont bien travaillé dans l'année.
J'avais prévenu que cette émission nous réserverait quelques surprises. Vous n'avez pas eu votre médaille du bac?
Malheureusement, j'aurais bien apprécié.
Oui, moi non plus.
Ah, vous pouvez l'acheter à posteriori.
Oui, d'accord, c'est autre chose.
On peut toujours se la procurer, mais ce n'est plus tout à fait la même chose. Alors, vous êtes en train d'ouvrir, si je puis dire, la Monnaie de Paris sur le monde, sur l'extérieur. Vous allez la rendre plus accueillante?
En effet, nous avons aujourd'hui un monument en plein cœur de Paris qui est un peu fermé sur lui-même et nous menons un grand projet de restauration de ce bâtiment et d'ouverture au public. Il y aura un très grand restaurant qui ouvrira ses portes dans quelques mois. Il y aura un programme d'exposition d'art contemporain qui également trouvera sa place dans le sillage des expos que nous avons fait en 2009-2010 sur David Lachapelle ou Willy Ronis par exemple. Et nous aurons surtout le clou du projet, ce sera les ateliers d'art. Alors, eux-mêmes voilà. Qui seront accessibles au public.
Alors, il y aura des vitres, c'est ça, comme dans certains restaurants où l'on voit travailler les chefs?
Il y aura des vitres et il y aura aussi un contact direct avec les artisans d'art de la Monnaie de Paris qui pourront expliquer au public ce qu'ils font, l'estampage, la gravure, les maillages, l'ensemble des métiers d'art qui sont exercés chez nous depuis des siècles en réalité et qui font de la Monnaie de Paris une des dernières usines dans Paris et c'est une dernière usine qui mérite d'être visitée.
Alors, il y a le côté très technique de l'usine et puis il y a le côté très artistique puisque vous donnez du travail à toutes sortes de grands artistes, parfois malheureusement méconnus. Je suis ravi qu'Yves Sampo soit avec nous autour de cette table. Vous êtes le responsable de l'atelier de gravure de la Monnaie de Paris et vous demandez des matrices à un certain nombre de grands graveurs.
Alors bonjour.
Bonjour.
Oui, effectivement, donc je suis le responsable de l'atelier de gravure. Nous avons donc, je manage une équipe de 12 graveurs et effectivement, j'exerce mon métier depuis 15 ans à la Monnaie de Paris et j'ai appris mon métier grâce donc aux graveurs qui, maîtres graveurs qui m'ont formé. Voilà, c'est un métier qui est extrêmement complexe et il faut à peu près une dizaine d'années pour connaître toutes les ficelles du métier et pouvoir ensuite les exercer.
J'ai eu la chance il y a quelques années de voir travailler un des graveurs qui œuvrait pour la Monnaie de Paris. Paris, c'est un travail infiniment précis, hein, parce que c'est un travail en creux, il faut le dire, et un travail, quand je dis en creux, c'est vraiment, on travaille au dixième de millimètre avec de très grosses loupes, c'est un travail tout en finesse, celui de la gravure de médaille.
Effectivement, c'est un travail qui est très très minutieux, et il y a toute une gymnastique d'esprit à avoir en tête.
C'est tout inversé, doublement même, on peut dire, oui.
Et donc la subtilité du métier fait que, effectivement, le moindre centième retiré, toute la cohérence d'un volume n'est plus actuel. Quoi.
Alors évidemment, il y a les pièces de monnaie et nous allons venir à l'euro des régions dans un tout petit instant, mais il y a ces somptueuses médailles qui sont soit commémoratives, soit simplement des médailles d'hommage et de collection, disons-le, dont certaines ont une profondeur, une composition digne des plus belles œuvres d'art, il faut le dire. C'est de la sculpture, finalement, très petit relief.
C'est exactement ça, tout à fait. Donc, cet exercice est totalement différent de l'exercice monétaire, parce qu'en définitive, on raisonne sur un volume qui est beaucoup plus important. Et donc, on a bien sûr des grands artistes qui nous ont sollicités pour réaliser en fait leur médaille.
Christophe Beau me disait, juste avant que ne commence cette émission, que depuis 1h30 ce matin, certains font la queue devant la Monnaie de Paris pour se procurer les fameuses 27 pièces, ces euros de nos régions. À quoi ressemblent-ils? Comment ont-ils été conçus? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'argent, c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon.
chanson plus bifurée sur Europe 1. C'est du flouze, des dollars, des roupies, c'est l'argent, Franck.
Cette monnaie dont nous nous servons tous les jours est peut-être de la pure monnaie. En tout cas, c'est de la fausse monnaie, prétendent Philippe Simoneau et Charles Lelien dans un ouvrage qui s'appelle « La monnaie, histoire d'une imposture ». Rien que ça, ça vient de paraître chez Perrin. Fausse monnaie d'autant plus pernicieuse que nous n'avons pas conscience de l'inflation qui la ronge bon an mal an. Ce qui est vrai de l'euro l'est tout autant des autres devises, grandes ou petites. Je rappelle le titre parce que je ne le reciterai pas, mais c'est un livre très amusant à lire et qui offre sur la monnaie des aperçus assez inattendus. Philippe Simoneau et Charles Lelien, La monnaie, histoire d'une imposture. Et c'est bien un livre d'histoire puisqu'il est édité chez Perrin. Alors, Julia, j'ai entre les mains, pour revenir à des choses qui fâchent moins, une des 27 pièces qui sont aujourd'hui émises par la monnaie de Paris, ces pièces de 10 euros en argent, extrêmement fines, élégantes, très belles. Alors la mienne, c'est la région Poitou-Charentes. Bah oui, c'est très gentil d'ailleurs d'avoir pensé à mes origines poitevines avec l'effigie de Pierre Loti. Et puis on aperçoit, si je ne m'abuse, le grand escalier, vous savez, cet escalier un peu monumental de la maison de Rochefort-sur-Mer. Alors, j'aimerais vous demander, Michel Lasset, d'abord, avant d'entrer dans l'aspect artistique, d'un point de vue technique, comment pourrait-on la décrire, cette pièce, techniquement ?
Alors, c'est une pièce en argent. Déjà, c'est une pièce en argent qui est donc ronde, avec une tranche lisse, hein, puisque c'est une pièce...
Oui, c'est d'ailleurs étonnant qu'elle soit lisse. Ça donne envie de la toucher, en fait, comme ça, sur la tranche.
Oui, c'est plus joli, je trouve, personnellement, qu'une tranche cannelée. Bon. Et puis, c'est une pièce donc qui est caractérisée. Il y a le portrait sur chacune des pièces des 27 régions. Il y a un portrait qui est le portrait de la personnalité choisie, effectivement, pour la région... Charente-Poitou, c'est le portrait de Pierre Loti.
Alors on a effectivement sur l'avers une sorte de région dessinée en guillochage. Il y a un élément de décor et puis l'effigie du personnage. Comment ont été choisis ces 27 personnages, Christophe Beau ?
Alors on a fait un travail d'abord interne pour recenser dans chaque région des personnages célèbres qui peuvent être d'ailleurs aussi bien des personnages de la littérature, vous venez de citer Pierre Loti, que des personnages historiques, on a Vercingétorix pour l'Auvergne,
voilà. Ça s'imposait, vive Gergovie,
ou Jeanne d'Arc pour la Lorraine par
bien
exemple,
sûr.
Ou bien aussi des inventeurs, des ingénieurs comme les frères Lumière pour la région Rhône-Alpes, donc c'est très diversifié, on a voulu représenter en quelque sorte les grandes gloires de la France issues de leur région d'origine. On a évidemment été à l'écoute des numismates, des collectionneurs, dans les différents contacts qu'on peut avoir avec eux. On a veillé à ce qu'il y ait pratiquement autant d'hommes que de femmes.
Vous avez eu un peu de mal avec le Limousin, puisque vous êtes allé chercher Madame de Pompadour qui quand même n'a jamais mis les pieds dans le Limousin. C'est vrai qu'il y a une ville qui s'appelle Pompadour. Oui, elle avait un château. Oui. J'espère qu'elle le savait au moins, que son château se trouvait dans le Limousin, Madame de Pompadour. Vous avez aussi mis en avant les départements et les territoires d'outre-mer.
Absolument, puisque vous avez dit donc qu'il y a 27 pièces, il y a 22 régions métropolitaines et 5 régions ou territoires d'outre-mer qui ont tous leur autonomie juridique. Donc par exemple, pour la Guyane, on a représenté Félix Eboué, qui est d'ailleurs, dont les cendres sont au Panthéon et qui est un grand homme de l'histoire de France. Pour la Martinique, Victor Schœlcher, grande figure de l'abolition de l'esclavage. Ou bien encore pour la Réunion, Roland Garros, qui est né à la Réunion et qui est aussi un petit clin d'œil aux amateurs de tennis.
J'imagine, Yves Sampeau, que ce n'est pas le même graveur qui a fait toutes les pièces.
Alors, en fait, c'est une démarche collective. Mm-hmm. Donc, les dessins sont réalisés donc dans mon atelier, et donc effectivement, il faut garder une certaine uniformité dans l'ensemble des pièces, puisque il y a plusieurs graveurs qui travaillent dessus. Donc, en fait, je fais la synthèse et donc je donne mon accord pour valider donc le travail de modelé qui est réalisé.
Et donc, vous avez essayé de mettre en avant ce qu'il y avait de plus saillant dans chaque région ?
Alors, effectivement, c'est à partir de ce choix donc, qui a été fait par Christophe Beau en interne et puis également mon intervention.
Donc, vous avez une vraie responsabilité. C'est à vous que les pièces doivent la forme qu'elles
Alors,
acquièrent.
Oui, quoi. C'est donc, d'une part, une forme qui est déterminée déjà à l'avance. Et puis, effectivement, le travail, c'est un travail qui a été pris à a déjà 3 ans. Donc il y avait quand même un fil conducteur. On est parti de cette idée de bandeau qui était en fait donc le ruban d'un drapeau. Et donc il fallait retrouver une certaine harmonie dans cette donc déclinaison sur 3 ans. Et donc ça a été le support qui a été donc utilisé pour mettre les différents éléments en valeur.
Jean-Luc Dénier, vous qui collectionnez en tant que conservateur du Musée de la Monnaie de Paris les vieux statères et autres écus, il y a beaucoup à faire pour donner de la noblesse à l'euro. Il n'a pas tellement bonne presse, cet euro, en ce moment. Vous pensez qu'une initiative comme celle-là peut contribuer à faire aimer la monnaie ?
Oui, de toute façon, c'est un secteur qui est apprécié des numismates et qui permet malgré tout de rassurer un petit peu les collectionneurs dans la mesure où ces monnaies sont créées en métal précieux.
C'est de l'argent en l'occurrence. Christophe Beau.
Si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est vrai que les euros des régions sont à la fois des euros, donc ils participent à la création monétaire globale de la zone euro, et en même temps ils sont des régions, c'est-à-dire qu'ils rappellent aux Français leurs origines, leur territoire, la région où ils sont nés, la région où ils passent leurs vacances, etc., ou leur région de cœur tout simplement. Et donc effectivement, pour répondre à votre question, ça contribue à rendre peut-être davantage aimable entre guillemets l'euro, pour montrer qu'il peut être très proche de nous-mêmes, même s'il fait partie d'une construction plus vaste qui nous dépasse, il peut être aussi très très proche de notre quotidien.
Les billets jouent un rôle, mais la monnaie, on a beau dire, la pièce de monnaie, surtout lorsqu'elle est en métal précieux comme celle-ci, en argent, évidemment, elle a toute une dimension symbolique et affective qui n'est pas négligeable. D'un point de vue très concret, où nos auditeurs peuvent-ils trouver ces pièces ?
Soit à la Monnaie de Paris, où il y a une file d'attente effectivement depuis 1h du matin, soit dans 3000 bureaux de poste répartis dans tout le territoire, donc c'est très facile de se rendre à son bureau de poste et d'acheter ces euros des régions.
Merci à vous quatre d'avoir essayé de nous faire comprendre un peu mieux ce que c'était que la monnaie et notamment ces fameux euros des régions qui, je le rappelle, sortent aujourd'hui.